Nous allons commencer par la prière. Notre Dieu, notre Créateur, le Maître du monde, nous sommes que des grains de sable devant toi. Et pourtant, souvent, nous nous comportons comme si nous étions le centre du monde. Pardonne-le. Pardonne-nous, Seigneur, notre attitude, cette nature. Et plus les années passent, plus nous nous rendons compte pourquoi sa crucifixion était indispensable. Notre Dieu, encore une fois, merci pour cette porte que tu as ouverte, ce voile qui s'est déchiré pour que nous donner accès au lieu très saint par ton Fils Jésus-Christ. Un Fils parfait, saint, divin, qui a accepté de monter sur la croix à notre place, mais nous a porté avec lui. En sorte qu'il a ouvert cette porte de la délivrance, que nous puissions crier comme l'apôtre Paul, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Par la puissance de la résurrection, nous a fait monter avec lui, à travers cette ascension. Et spirituellement, nous sommes assis à ta droite, Père éternel. C'est une réalité qui nous dépasse, nous ne pouvons pas expliquer par nos mots, mais par contre, quelque chose que nous pouvons comprendre dans notre être intérieur. Par l'Esprit qui habite notre esprit. Je remets entre tes mains ce message que nous allons partager ensemble ce matin. Que ce soit un message nourriture, un message qui ne s'arrête pas à notre niveau intellectuel. Comprendre ou pas comprendre, que ce ne soit pas le filtre du comprendre qui soit le premier, mais que ce soit une réception dans notre cœur. Et que tu mettes de côté tout ce qui vient de l'homme, que tu puisses mettre que ce qui vient de toi. Balayer tout cela, que la seule chose que tu peux faire toi, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Je me remets entièrement entre tes mains et que ta volonté seule se fasse, parce qu'elle est bonne, parfaite et agréable, comme le dit ta parole. Amen.
Amen.
Nous continuons avec des messages nouveaux qui se répètent. Donc il n'y a rien de nouveau. Mais c'est bien de dire nouveau, parce qu'on utilise de nouvelles expressions, nouveaux mots, etc. Eh bien, nous allons revenir toujours à la même chose, parce que de toute façon, quand on quitte, on revient toujours à la même chose. Je peux parler, comme je vous l'ai déjà dit, je peux parler de bonté, de paix, ce que vous voulez, mais tout est contenu en Christ. Je peux parler de Christ. Pourquoi perdre du temps? Parlons directement à celui en qui nous retrouvons toutes choses. La Bible nous dit que la plénitude habite en Christ. Alors pourquoi je cherche les détails de la plénitude, il suffit de parler de Christ. Nous avons tout. Oui. Donc nous revenons toujours à Christ. Et nous avons lu ce matin deux passages de la Bible par Ryan qui nous parlent d'union. Et merci encore une fois pour ce partage que nous avons ce matin. Parce qu'encore une fois, il était question d'union. Je vais abandonner petit à petit communion. Parce que communion, ça me fait comme une union. Donc en fait, c'est du copier, mais du faux, quoi. C'est comme une union. Non, c'est une union. Communion, je préfère dire union. C'est pas comme une union. Une. Demeurer en Christ. Si on ne demeure pas en Christ, de toute façon, en dehors de Christ, il n'y a rien. Il faut être clair là-dessus. Il faut qu'on soit clair, et je crois qu'on est déjà resté au clair, qu'en dehors de Christ, il n'y a rien. Il n'y a rien. Demeurer en moi, vous portez des fruits. En dehors de lui, si on porte des fruits, ce n'est pas les vrais. C'est les bons fruits. C'est comme les bonnes œuvres. On parle des bonnes œuvres. La Bible parle des œuvres bonnes. Il y a des œuvres qui viennent de l'homme, des œuvres de Dieu. Des fois, les œuvres de l'homme, on les attribue à Dieu. Si on n'est pas en Christ, ce ne sont pas des bonnes œuvres. Ce sont des œuvres de l'homme. Et je vais relire ces deux passages. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9 à 10, et Romains 6, verset 3 à 6. Donc, je commence par le premier. 1 Corinthiens 1, 9 à 10. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. On peut dire vivre en union avec son Fils, Jésus, notre Seigneur. Nous sommes appelés à cela. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit, et dans la même pensée. La plus importante chose qu'il faut apprendre là, c'est que souvent nous avançons le verset 10 qui dit « Soyez unis ». Il n'y a pas de division. Mais ça n'a pas de sens de dire ça si nous ne nous basons pas sur le verset précédent, le verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils. C'est parce que nous sommes en communion avec son Fils que nous pouvons vivre la communion fraternelle. Il ne faut pas inverser. Et Romains chapitre 6, versets 3 à 6, cette union avec Christ, elle consiste à quoi? Et bien Romains 6, chapitre 3, verset 6, voilà ce qu'il dit. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous sommes unis dans sa mort. Et par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une nouvelle vie. C'est la résurrection. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. La libération du péché est le fruit d'une union. Oui. C'est à la fin qu'on a parlé, vous n'êtes plus esclaves du péché. Mais pas quand je réalise que je suis uni en Christ et Dieu me le révèle, me fait vivre tout cela. Alors le développement d'aujourd'hui, je vais me baser sur, je dirais, méditation, message, écrit d'un homme de Dieu du début du 20e, fin 19e, début 20e, Austin Sparks, qui a vécu le réveil au pays de Galles. Donc je vais vraiment paraphraser ce qu'il a dit. Je vais utiliser son message. Je vais m'inspirer de son message. Donc le contenu que je vais vous lire là, je ne vais que partager avec vous quelque chose qui m'a parlé. Et vous allez voir, le message, il peut avoir 200, 300, 500 ans, est toujours le même. Le titre, c'est « En Christ ». Et nous allons le faire en trois parties. Parce qu'en Christ, nous sommes unis. En Christ, par la conformité à sa mort, c'est ce qu'on fera aujourd'hui. En Christ, par la conformité à sa mort. Mais ce n'est qu'une partie du message. Nous sommes unis à Christ par la conformité à sa résurrection. Et nous sommes unis en Christ, nous sommes en Christ par la conformité à son ascension, à sa glorieuse ascension. Donc trois parties, trois messages. En Christ, par la conformité à sa mort, aujourd'hui. Aucune phrase, aucune expression ne se rencontre dans le Nouveau Testament plus souvent que l'expression « en Christ ». Elle se présente sous la forme diverse du fait de la traduction. Quand on prend les traductions, des fois ça change. « En », on met « avec », « du ». Par exemple, « par Christ » ou « avec Christ ». Quelquefois, elle apparaît sous une forme différente dans l'original. C'est ainsi qu'on aura « en Christ Jésus » ou « en lui ». Des fois, on dit « en lui ». Ou telle autre forme équivalente. Mais dans les quelques 200 passages où cette expression apparaît dans le Nouveau Testament, le principe est le même. Dans tout le domaine de la foi chrétienne, il n'y a rien qui soit plus expressif, mais il n'y a rien non plus qui soit plus mal compris et dont la valeur soit plus méconnue de nos jours. En Christ, avec Christ de Christ, c'est pareil pour nous. Dans une déclaration qui est le couronnement de tout ce qu'on peut dire et penser de la question, les Écritures nous apprennent que Dieu a réuni et rassemblé toutes choses en Christ. Il n'est pas dit quelque chose, toutes choses. Tout ce qui vient nous passer par la tête, là, c'est réuni en Christ. Et qu'en dehors de lui, il n'existe rien qui puisse prétendre à une place quelconque dans son dessein éternel. Tout ce qui ne vient pas de Christ, Dieu n'en veut pas. Et j'aime bien cette expression que Dieu, quand il nous regarde, il nous regarde à travers la croix. La croix, c'est la loupe. Il ne regarde ni à gauche ni à droite, à travers la croix. Si on n'est pas dans l'axe de la croix, il ne regarde même pas, on n'existe même pas. la croix est indispensable, la croix de son Fils. Tout ce qui se rapporte à ce dessein éternel est christocentrique, centré sur Christ. Un message, on ne met pas Christ au centre, courez, abandonnez, n'écoutez pas. Christ doit être le centre. Et si Christ n'est pas au centre, on n'a pas besoin. Christ, tout est mis en Christ. La création est en Christ. La vie est en Christ. Je ne vais pas vous donner tous les passages, parce qu'on va passer des heures. La gloire de sa grâce est en Christ. La justice est en Christ. La sanctification est en Christ. L'espérance est en Christ. Les bénédictions spirituelles sont en Christ. La consolation est en Christ. La paix est en Christ. La prière efficace est seulement en Christ. La force et les richesses sont en Christ. Le dessein éternel est en Christ. La nouvelle création est en Christ. Les promesses sont en Christ. Tout ce que je fais jusque maintenant, c'est des passages de la Bible que je vous transmets. Les promesses sont en Christ. C'est en Christ seulement qu'il n'y a plus de condamnation. C'est en Christ qu'il y a un seul corps, nous, par exemple. La persévérance est en Christ. C'est en Christ que l'homme est devenu parfait. La collaboration dans le ministère, n'importe lequel, est en Christ. Et là, c'est Romains chapitre 16, verset 9. Il y a les assemblées qui doivent être en Christ. C'est en Christ qu'il y a un seul homme nouveau. Et c'est en Christ que nous avons tout pleinement. C'est que quelques passages, vous voyez ? C'est en Christ, en dehors de Christ, notre position en Christ, il n'y a rien. Le contexte de cette expression en Christ nous conduit jusque dans le passé éternel. C'est paradoxal. Quand on parle de passé, il n'y a pas d'éternité. Bon. Parce qu'il n'y a pas de temps dans l'éternité. Nous conduit jusque dans le passé éternel et nous fait parcourir tous les siècles jusqu'en de l'éternité future. C'est en Christ, avant la fondation du monde, que Dieu nous a élus. Éphésiens chapitre 1, verset 4, et on peut le trouver aussi dans 1 Pierre chapitre 5, verset 13. À travers le temps et par la croix, ce fait éternel et céleste devient une réalité et une expérience personnelle. Et souvent, nous oublions expérience personnelle. Ce que la Bible nous montre comme vie spirituelle, nous sommes appelés à vivre cela ici, sur terre. L'éternité a déjà commencé en nous quand nous avons reçu le Seigneur dans notre cœur. L'éternité a commencé là, ce n'est pas après notre mort physique. Non, l'éternité a commencé. Et nous sommes appelés à expérimenter. Qui dit expérimenter, ça ne veut pas dire dans un laps de temps. C'est tout le temps. Vivre cette réalité spirituelle. Au bout du cheminement, quand tout ce qui précède aura eu son accomplissement, nous atteindrons le point culminant, et c'est notre objectif, nous ne l'oublions pas, en étant enlevés tous ensemble avec lui, vers lui, en lui. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17. L'éternité, enfin, pointe à l'horizon. Et nous voyons dans Romains, chapitre 8, verset 17, que nous sommes glorifiés aussi avec lui. Ça dépasse la terre, ça va jusqu'au ciel. Dieu a établi une séparation absolue. Et là, on rentre dans le cœur. Pour vivre, expérimenter cette réalité spirituelle, souvent, on l'admire, on dit « ça nous dépasse ». Nous sommes appelés à la vivre, nous ne minimisons pas ce que Dieu a proclamé. Dieu a dit cette réalité spirituelle, l'Église est appelée à la vivre ici. Donc ne minimisons pas. Dieu a établi une séparation absolue entre deux ordres de choses. Et nous n'avons gare à nous de les mélanger. D'ailleurs, au début de notre vie chrétienne, on les mélange. Mais normalement, plus nous avançons, plus cette séparation doit être visible. Les deux ordres des choses, c'est quoi ? Celle rattachée à notre nature adamique. que la Bible appelle le premier Adam, la nature avec laquelle nous sommes nés, est celle qui fait de nous de nouvelles créatures ou nouvelles créations quand nous avons reçu le Seigneur dans notre vie, le deuxième Adam, Christ. D'ancien Adam, par notre nature pécheresse et aliénée, malade, nous sommes appelés à demeurer en Christ, d'où le passage que nous avons partagé ce matin, demeurer en Christ pour une nouvelle vie. Si je veux avoir une nouvelle vie, je dois demeurer en Christ. Un examen attentif des passages de la Bible nous fait reconnaître un fait capital. C'est qu'aucun homme, je le répète, qu'aucun homme, aucune femme, aucun homme, aucune femme ne peut vivre la vie chrétienne. Aucun homme, aucune femme ne peut vivre la vie chrétienne de lui-même ou d'elle-même. Je le répète, aucun homme, aucune femme ne peut vivre la vie chrétienne d'elle-même ou de lui-même. Il n'y en a qu'un qui puisse vivre cette vie-là, cette vie chrétienne, c'est Christ lui-même. En fait, c'est comme si Christ, il vit sa vie chrétienne à travers nous. Mais nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes. C'est seulement Christ qui vit à travers nous. Notre incorporation doit être une expérience si réelle que ce soit lui, en définitive, qui vive sa vie par nous. Pour moi, vivre, c'est Christ, a dit l'apôtre Paul. Pour moi, vivre, c'est Christ. Il n'a pas dit, je vis de la vie de Christ. Non, pour lui, Christ, c'est la vie. D'où cette communion avec lui. Quand Christ est en moi, c'est la vie. Quand le forgeron a mis un fer dans le brasier, c'est à la fois le feu qui est dans le fer et le fer qui est dans le feu. Il en est de même pour nous. Nous devons réaliser, premièrement, la position qui nous a été réservée à la croix et à quel prix elle était obtenue. Notre position en Christ est obtenue par un prix de vie. Jésus a donné sa vie sur la croix pour que nous puissions avoir cette position en lui. Et encore, en lui, ça se fait comment? Par l'Esprit. Quand Christ est mort sur la croix, il est ressuscité, il est monté au ciel et il a dit, il vaut mieux pour vous que je monte au ciel parce qu'à la place, je ne serai pas à côté de vous. Vous n'êtes plus à côté de moi. Une relation, vous allez vivre une communion, une union. C'est l'Esprit qui vient habiter en vous. Donc il vaut mieux que je monte. Vous comprenez pourquoi le diable a tout fait pour qu'il descende de la croix. Si tu es le Fils de Dieu, va descendre. Ou à ses disciples. Il a tout fait dans leur cœur pour qu'ils puissent le défendre avec l'épée. Rappelez-vous, il a coupé, un de ses disciples a coupé l'oreille d'un des soldats ou représentant d'un sacrificateur. Tout était fait pour qu'il ne monte pas sur la croix. Les religions d'aujourd'hui, surtout laquelle je suis issu, reconnaissent tout ce qui est dans la Bible, sauf la croix. Pourquoi? Parce qu'à la croix, quand le Seigneur est mort et est monté, il n'y a plus de relation. Il a envoyé l'Esprit, on rentre dans une communion directe avec le Père, Christ qui vit en nous à travers l'Esprit. Nous vivons à une époque où nous entendons parler très souvent de service chrétien. Je suis dans le service chrétien, je suis dans le ministère, je suis... Alors là, je vais quitter mon travail, je vais travailler pour la foi chrétienne. Ça, c'est un langage qu'on entend souvent, hein. Où il existe un grand nombre d'organisations, de campagnes diverses, d'écoles bibliques, d'universités, d'annonces en tout genre, de marketing spirituel, beaucoup de temps, d'argent, d'énergie, de moyens, de bâtiments, variés au nom de la foi chrétienne. Au nom de la foi chrétienne, attention, dès qu'on met une étiquette, la foi chrétienne. Mais comparativement, les résultats sont médiocres. Pourquoi on creuse, il n'y a pas autant de chrétiens alors qu'il y a des bâtiments? Il y a les moyens, il y a l'argent, il y a tout. Alors pourquoi il n'y a pas de chrétiens? Et il n'y a pas de chrétiens? Pourquoi il n'y a pas de conversion? Mais comparativement, les résultats sont médiocres. Et je parle du Creuset, je parle de la France, je parle du monde. Et l'ampleur de tous ces moyens utilisés demeure inefficace. Avec tous les moyens technologiques que nous avons maintenant. On peut même utiliser un langage jeune pour les convaincre de rencontrer le Seigneur. Je ne vais pas m'aventurer. La question principale que chacun devrait se poser, et moi le premier, est celle de la source de toutes ces activités. Combien de ces actions sont issues de Dieu par la révélation de l'Esprit Saint? Ou peut-être, la chair, en se basant sur son bon côté, ne veut pas se mettre en avant d'une manière humble pour servir le Seigneur? Oui, l'humilité devient orgueil. Trop d'humilité, c'est de l'orgueil. De combien de ces œuvres il peut être affirmé qu'elles sont le résultat de l'initiative de l'Esprit de Dieu? Ce sont des questions qui étaient posées à la fin du 19e, début du 20e. Oui, ça n'a rien changé. C'est même ça empiré, je crois. Nous sommes souvent trompés par les apparences. Ce n'est pas ce qui est fait pour Dieu qui demeurera. Je le répète. Ce n'est pas ce qui est fait pour Dieu qui demeurera, mais ce qui est fait par Dieu. Ça n'a rien à voir par Dieu. Nous sommes appelés à demeurer en Christ. Le plus dur qu'on peut demander à un être humain, c'est pas de faire, c'est de s'arrêter et de demeurer en Christ. Un chrétien lui dit, arrête de faire, repose-toi sur Christ. Non, j'ai envie de faire. C'est le plus dur, oui. Il est plus dur de s'arrêter que d'être en action tout le temps. Pourquoi? Parce que Dieu nous demande d'abord d'être, de s'arrêter, de demeurer en Christ. Nous sommes appelés à nous asseoir d'abord. Et Dieu nous comble, nous remplit, nous enseigne, nous fait rentrer dans cette communion. Et d'un seul coup, nous nous voyons marcher sans nous rendre compte. Parce que ce n'est plus la chair qui avance. Vous voyez? Donc il ne faut pas non plus inverser. Nous sommes appelés à demeurer en Christ et à vivre par et pour l'Esprit. Toutes les autres choses découleront de ces positions. Nous nous voyons marcher des fois sans nous rendre compte, témoigner sans nous rendre compte, parce que nous tirons notre substance de notre demeurer en lui. Il ne peut y avoir de vie en Christ avant que nous ne demeurions en lui. Vivre par l'Esprit est bien synonyme de demeurer en lui. Et là, c'est un point quand même que ça fait trentaine d'années que je suis chrétien. On a l'impression qu'on l'a minimisé aussi. Vivre dans l'Esprit, on n'évoque même plus maintenant. Ou quand on l'évoque, ça devient quelque chose, enfin, on n'est plus dans le... c'est vraiment la fabrication humaine. Hein. Je parle de charismatique, etc. Alors que le chrétien, nous sommes appelés à vivre dans l'Esprit. Si nous ne vivons pas dans l'Esprit, nous ne sommes pas considérés comme chrétiens matures, et je vais même plus loin, et là c'est dangereux, nous ne pourrons même pas faire partie de cette Église qui ira à la rencontre du Seigneur. Parce qu'il nous est dit que c'est seulement ceux qui sont arrivés à cette maturité, à l'état de Christ, à l'état d'homme fait, vivant selon l'Esprit, c'est ceux-là qui iront à la rencontre de Christ quand il reviendra. Donc, si je suis un chrétien charnel, je suis désolé. La Bible est claire. On peut parler de grâce si vous voulez, mais elle est claire. Je resterai ici. Vivre par l'Esprit est bien synonyme de demeurer en lui. C'est la manifestation d'une union avec Christ. C'est une sainte union qui s'effectue. Comment s'effectue cette union depuis tout à l'heure, je vous parle? Elle s'effectue à travers une conformité. Vous allez me dire, à sa résurrection et son ascension. J'ai fait exprès pour vous dire ça. Je n'ai fait que le côté positif. Mais il y a le côté avant. Négatif que nous voulons mettre de côté, balayer parce que la nature n'aime pas. Nous sommes appelés à vivre en lui, cette union en conformité d'abord à sa mort. Par la conformité à sa mort. On a souvent fait remarquer que la mort de Christ avait, et encore, un double aspect. Premièrement, l'aspect substitutif. Ça, on le sait tout de suite, ça veut dire Dieu est mort à notre place. Et ça, on l'accepte. Tous les chrétiens l'acceptent. Je ne connais pas un chrétien qui n'accepte pas cette réalité. Dieu est mort pour moi. Ben oui, parce que ça n'engage rien pour moi. Ça m'engage rien. Je ne suis spectateur. Dieu est mort pour moi. Alléluia, je le chante. L'aspect substitutif qui est unique, isolé, complet et définitif. Personne ne peut rien ajouter. Ça ne vient pas de nous. C'est un don. C'est une grâce. Et personne ne peut contribuer en quoi que ce soit à son efficacité. Nous en recevons les bénéfices par la foi. Nous le croyons par la foi. En pur don. Et nous sommes ainsi justifiés. Christ est mort pour moi. Je le crois. Je suis justifié. Tous les chrétiens. Mais il y a un second. Je voudrais bien qu'on en parle. Hein, qu'on le sorte, qu'on ne le mette pas de côté ou qu'on en parle un tout petit peu. Il y a un second aspect. c'est l'aspect représentatif. C'est ici que nous avons notre place. C'est-à-dire que nous allons nous identifier à la mort de Christ. Au lieu d'être spectateur, comme le pain tout à l'heure, je peux passer avec le pain, vous le montrer. Tout le monde dit, ah, c'est le pain de Christ. Ça, c'est substitutif. Mais si je vous demande, si on le mange ensemble, on n'est plus dans le spectateur, on est dans l'union. Nous allons rentrer en communion avec le pain. Nous-mêmes, dans notre nature adamique déchue, sommes inclus dans cette mort. Christ, quand il était sur la croix, il y a plus de 2000 ans, il faut le savoir, et ça nous dépasse. Vous savez, imaginez qu'il y a plus de 2000 ans, quand Christ est sur la croix, vous savez que Abdel était avec lui. J'étais homme. Oui, si on réfléchit comme ça, on dit, mais ça ne va pas, non? Et pourtant, la Bible nous le dit. Spirituellement, quand Christ était mort sur la croix, nous étions non seulement avec lui, mais en lui. La Bible nous dit, il nous a portés avec lui sur la croix. L'aspect substitutif tranche la question de notre péché. Quand nous regardons à Christ ce qu'il a fait pour nous, on est content parce qu'il dit qu'il a porté nos péchés sur lui. Donc on est spectateur. Mais nous sommes appelés à plus que ça. L'aspect représentatif, c'est-à-dire uni à sa mort, tranche la question de notre personne en tant que pécheur. Christ a porté sur la croix non seulement mes péchés, mais il m'a porté moi entièrement Abdel en tant que pécheur avec lui. Et souvent, on met en avant le péché, ça arrange tout le monde, mais on oublie que tout Abdel entièrement est porté avec lui, c'est-à-dire il m'a fait mourir avec lui sur la croix, non seulement le mauvais côté, mais même ce qui me paraît bon. C'est-à-dire tout ce que je juge chez Abdel, ça c'est mauvais, Seigneur, tu l'as porté sur la croix. Mais non, la Bible nous dit, mais même ce que je crois bon, ça aussi il l'a porté sur la croix. Pourquoi? Parce que ça vient de moi et ça ne vient pas de lui. Bien que ces deux questions soient l'une et l'autre en rapport vital avec notre salut, la seconde, c'est-à-dire ensemble, représentée, c'est-à-dire en Christ, pourra rester assez longtemps à l'arrière-plan de notre vie spirituelle. Et souvent, c'est ce qui s'explique nos combats. Nos combats, nous n'arrivons pas à nous libérer. Pourquoi? Parce que nous voulons être libérés du péché, alors qu'il y a un voile, il y a quelque chose qui nous cache que si vous voulez être libérés de vos péchés, mais réalisez que le pécheur est mort. C'est-à-dire, pour que le péché s'enlève, il faut que la racine s'enlève. La racine, c'est qui? C'est nous. Ce n'est que lorsque nous deviendrons à réaliser ce qu'est de vivre la vie de Christ, d'entrer, que nous entrons expérimentalement dans cette libération. Ce second aspect de la croix se trouve souligné partout dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous ce que j'ai dit, la Bible, il ne faut pas la lire comme un livre d'histoire, et souvent, quelle erreur on commet. Il y a même des archéologues qui utilisent la Bible pour aller chercher. On peut, oui, mais c'est pas, ça, c'est rien du tout. La Bible, c'est un message double. Vous prenez de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est un message double. C'est-à-dire, il y a une réalité matérielle, visible, que nous comprenons, mais derrière chaque réalité, il y a une réalité spirituelle. Il y a un enseignement spirituel qui doit être vécu. La Bible commence déjà tout de suite par la lettre B qui représente le chiffre 2, c'est-à-dire déjà il y a deux messages. Quand on parle de le premier Adam, il n'a de sens que parce qu'il y a le deuxième Adam Christ. D'accord? S'il y a la mort, il y a la vie. S'il y a le peuple hébreu, le message du peuple hébreu, c'est que cette réalité cache une réalité spirituelle à laquelle Dieu nous appelle, c'est la vie chrétienne, tout simplement. Ce second aspect de la croix se trouve souligné partout dans l'Ancien Testament, soit dans les types, c'est-à-dire les personnages des hommes et des femmes de Dieu, soit dans l'enseignement général. Il est indispensable, par exemple, qu'Abraham soit séparé, vous connaissez l'histoire, soit séparé de son pays, de sa famille et de la maison de son père. Rappelez-vous ce qu'il lui a dit, « Va maintenant, je t'indique un endroit, tu ne sais pas où aller, mais tu vas y aller quand même. Oui. » Donc Abraham était appelé à se séparer de son pays, qui représente le monde. Vous voyez, c'est ça le message spirituel derrière. Se séparer de son pays, c'est tu vas te séparer du monde. Se séparer de sa famille, c'est-à-dire tu vas te séparer des relations naturelles, même qui te paraissent bonnes. Et de la maison de son père, tu vas te séparer du vieil homme. Vous voyez le message de l'Ancien Testament. Il en est de même pour Moïse. Il doit connaître lui aussi la discipline qui le préparera à son œuvre. 40 ans auparavant, Moïse avait essayé de mettre les ressources de sa vie naturelle au service du peuple de Dieu. Il n'avait pas réussi, c'était inévitable, parce qu'il essayait de lui-même. Pendant 40 ans, un principe de mort dut se frayer un chemin dans sa personne. Jusqu'enfin, la perspective du service de Dieu lui arracha le cri du cœur quand il a dit devant Dieu, « Je ne peux pas. » Alors qu'il a tout fait avant qu'il était dans la famille du Pharaon pour défendre ses frères, de lui-même, il était brisé, 40 ans dans le désert. Et quand il est passé 40 ans dans le désert, Dieu est venu vers lui, il lui dit, « Maintenant, je veux me servir de toi. » Il lui dit, « Mais je ne peux pas. » Il l'a totalement brisé. Et le « peut pas, je ne peux pas », ça veut dire, « Maintenant, tu es prêt. » Nous pouvons être certains que si nous essayons d'introduire l'homme naturel dans le domaine de la vie spirituelle et du service de Dieu, nous serons brisés. Mes frères et sœurs, c'est quand nous sommes brisés, acceptons-le. Souvent nous révoltons quand nous sommes brisés. Alors nous devons apprendre par l'expérience maintenant de dire, merci Seigneur pour ce brisement. Qu'est-ce que tu attends de moi ? Nous voyons de cette vérité d'union avec Christ dans sa mort, un enseignement de vie chrétienne. C'est un enseignement pour nous tous en tant que serviteurs de Dieu. Nous pourrions en suivre le principe à travers toutes les Écritures. Qu'est-ce que l'histoire d'Israël, sinon un long commentaire sur ce sujet ? La mer Rouge et la mort substitutive. Je l'ai toujours dit, je le rappelle, quand le peuple hébreu a traversé la mer Rouge, ils étaient admiratifs, spectateurs. « Waouh, le Dieu nous a ouvert la mer !» Comme nous faisons avec la croix. « Jésus est mort pour nous !» Il a fallu qu'ils les passent par le désert. Et le désert a permis que Dieu leur parle à travers les épreuves indispensables pour les préparer à rentrer dans la terre promise. Sans le désert, ils ne seraient jamais rentrés dans la terre promise. Et le désert, ça, c'est notre expérience de la vie. C'est les épreuves que nous pouvons passer dans la vie. Et ces épreuves nous préparent pour la rencontre de Christ quand il reviendra. C'est-à-dire, il nous faut cette union de sa mort, l'expérimenter dans notre vie. Son plan pour nous est de nous rendre la chose toujours aussi claire. Et bien qu'il puisse nous sembler y avoir entre ces deux ordres, c'est-à-dire l'humain et le spirituel, c'est-à-dire l'ancien Adam et Christ, il y a des mélanges ou des entrelacements, Dieu nous montrera avec un discernement croissant dans notre vie chrétienne qu'entre l'un et l'autre, il y a toujours la croix. Voilà le rôle de la croix, porter sa croix. Que deux personnes bien intentionnées s'efforcent d'atteindre un niveau spirituel satisfaisant. Il y en a même qui s'auto-évaluent tous les matins pour dire à quel niveau je suis spirituellement. En se donnant courageusement à l'œuvre de Dieu, mais avec les ressources naturelles de l'intelligence, de leur volonté, de leurs sentiments, de leur raisonnement, de leurs moyens financiers, de leur enthousiasme. Mais au bout, ils défaillent tous. Seul l'homme nouveau peut être agréé par Dieu. Et l'homme nouveau, ce n'est pas nous, c'est Christ en nous. Cet homme nouveau a une vie nouvelle, une manière de penser nouvelle, un esprit nouveau, des voies nouvelles, des capacités nouvelles, une conscience des choses nouvelles. En fait, toutes choses sont devenues nouvelles. Cet homme nouveau réalisera de plus en plus à quel point la manière divine de faire les choses est différente de la manière humaine. Et ça, nous l'apprenons par expérience avec une intimité avec notre Dieu. Nous commençons bébé, enfant, spirituel, nous devons cheminer vers la maturité. Entre les deux, il y a un désert. Et dans le désert, Dieu donne toujours la nourriture, il nous accompagne et il nous parle. Nous avons une connaissance bien imparfaite et nos inclinations naturelles. Reconnaissons-le devant le Seigneur. Nos mobiles, la nature de nos désirs, notre nature doit être destinée à la mort progressive. Jour après jour, Dieu nous brise, acceptant ce brisement. Notre nature désire toujours être indépendante. Elle défend toujours ses intérêts Et elle a souvent, elle nous montre souvent qu'elle a raison d'après sa logique. Et pourtant Dieu dit, elle est destinée à mourir sur la croix. Dieu seul sait à quel point toutes les sources et expressions de notre vie sont infectées et tronquées. Notre nature, elle peut nous faire croire qu'elle a beaucoup de bonnes choses en elle. Et bien même ces bonnes choses, Dieu veut nous dépouiller de ces bonnes choses. Il veut les ramener à sa manière, les rassembler à sa manière. C'est ça le grain de blé qui rentre dans la terre. Le même grain de blé, c'est nous. Mais en les rentrant dans la terre, souvent on est perdu. Mais Seigneur, comment veux-tu? Tu ne veux pas de mes dons? Tu ne veux pas mes moyens? Je veux te défendre, moi. Je veux te témoigner de toi. Mais il dit, je vais te, même de ça, je vais te débarrasser. Mais à quoi ça sert alors? Il dit, mais tu ne vas pas les perdre. Il ne faut pas t'inquiéter. Comme le grain de blé qui rentre dans la terre, il va se décomposer, il va se rassembler, il va sortir. Il va mieux faire nourrir les autres que le grain tout seul. Donc même ses dons, des fois, on les a. Quand Dieu le veut, encore une fois, si Dieu le veut, il peut les réutiliser, mais à sa manière. Mais avant de les réutiliser, souvent Dieu nous fait perdre tout espoir. Dans l'histoire, aussi bien que dans l'expérience personnelle, la croix précède la Pentecôte. On ne fait pas la Pentecôte avant la croix. La croix, la Pentecôte. La mort, et après, il y a cette résurrection, cet Esprit Saint. Aux yeux de Dieu, l'homme naturel est foncièrement incapable et indigne de faire quoi que ce soit pour lui. Si nous ne sommes pas en clair là-dessus, on va perdre du temps. Mais Dieu est patient. Continuons. Allez-y, je vous enseigne une fois par des épreuves. Vous ne voulez pas comprendre? Allons-y. Peut-être un jour, vous arriverez à comprendre que de vous-même, vous ne pouvez rien faire. Et d'ailleurs, il nous dit, je ne veux rien de vous, puisque tout ce qui me plaît, c'est Christ. Et si Christ n'est pas en vous, je ne veux rien. Une révélation personnelle, et là c'est le mot révélation, on l'a partagé une fois, on l'a minimisé aussi. Nous voulons tout comprendre. La Bible nous dit, la réalité de Christ ne peut se rencontrer, se recevoir que par révélation. La Bible est claire. Prions pour cela. C'est à titre individuel, à titre collectif, que Dieu me révèle Christ. Seigneur, révèle-nous Christ dans notre être intérieur, à titre individuel et à titre collectif. Une révélation personnelle de cet état de fait a toujours été un prélude nécessaire à l'onction pour le service. Le « je ne peux pas » de Moïse, le « malheur à moi » d'Ésaïe, le « je ne suis qu'un enfant » de Jérémie, le « je suis un homme pécheur » de Pierre, le « ce qui est bon n'habite pas en moi » de Paul sont des exemples typiques de l'attitude à laquelle furent amenés les grands hommes et les grandes femmes pour servir Dieu. Ces expressions résultent tout simplement d'une application dans leur vie personnelle du vrai sens de la croix. Sans la croix, mes frères et sœurs, il n'y a pas de vie chrétienne. Pourtant, dans le domaine de leur vie naturelle, ils étaient des enthousiastes de la religion, c'est bien. Dévoués à la cause de Dieu, c'est toujours l'amour de Dieu qui nous conduit sur le chemin de la croix. Sur le chemin de la croix, Dieu nous accompagne avec amour et dans la paix. Il ne nous abandonne pas, il est avec nous. Quelle que soit l'amertume de la coupe qu'il faille boire, quand l'âme est vidée, il vide notre âme. Et plus nous allons dans la profondeur de la mort, plus la résurrection est bonne. Pensons à cet aspect de la résurrection. Pas seulement la résurrection qu'on a au ciel, la résurrection, une nouveauté de vie. Ici-bas, je parle. Relisant les Écritures, en gardant cette pensée devant nous, quand nous verrons que vraiment sa mort est notre mort, nous devons dire Amen. Et demandons ensuite, Seigneur, réalise cela dans ma vie. Réalise cela dans notre vie. Seigneur, que cette mort soit présente dans ma vie. Parce que qui dit mort, il y a la vie en même temps. Nous pourrons alors avec vérité emprunter le langage de l'apôtre Paul, connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances étant rendues conformes à sa mort. Philippiens chapitre 3, verset 10. Philippiens 3, 10. Amen.